Alors, notre premier intervenant est Marc Pichard. Marc Pichard est professeur de droit privé à l'Université de Paris-Nanterre, et non pas à Lille. Il est co-directeur de l'ANR Régine Research and Studies on Gender and Inequality in European Norms. Et ce projet travaille afin de légitimer l'usage du concept de genre en France qui a du mal à, encore à être intégré dans la pensée et aussi dans la pensée intellectuelle, mais aussi dans la société civile. Il a coédité deux livres, dont un que je vous recommande plus particulièrement qui s'appelle... qu'il a coécrit avec Stéphanie Hennette Vauchez et Diane Roman, qui s'appelle « Genre et droit ». Et je tiens à dire que ce livre a été extrêmement attendu. C'est un ouvrage qui passe en revue les lois, le droit français au prisme du genre. Et en cela, il s'inscrit dans les travaux des juristes féministes américaines qui ont aussi porté leur regard du genre sur le droit tel qu'il a été formulé. Et c'est un livre vraiment très important. Donc je passe la parole à Marc et en le remerciant de respecter les 15 minutes de temps de parole. Merci.
Je vais essayer. Merci beaucoup, Jennifer, pour cette introduction et cet accueil. On a beaucoup parlé de vocabulaire et je vais revenir sur le vocabulaire, mais cette fois dans une acception très, très juridique. Et je vous prie d'accepter d'avance mes excuses pour le caractère justement très juridique du propos. L'expression « gestation pour le compte d'autrui » ou plus souvent encore sous la forme simplifiée de « gestation pour autrui » fait florès dans la littérature juridique, dans les décisions de justice, comme sous la plume des auteurs, mais aussi dans le langage courant. Or, cette expression générique correspond à une pluralité de situations. Au sein de cette pluralité de situations, on en a longuement parlé depuis un jour et demi, au sein de cette pluralité de situations, on s'accorde à distinguer selon les moyens sollicités, c'est-à-dire selon le rôle objectif de la femme tierce dans la naissance d'un enfant. La summa divisio, au sein de la catégorie générale gestation pour autrui, passerait donc par la distinction entre gestation pour autrui au sens strict, dans laquelle la femme qui porte l'enfant n'en est pas la génitrice, et maternité pour autrui, dans laquelle la gestatrice est également la génitrice de l'enfant. Cette convention de langage est censée dissiper tous les malentendus relatifs à la matière. Or, un retour aux textes eux-mêmes peut faire douter de la pertinence de l'analyse pour rendre compte du droit français. En effet, un seul texte de loi mentionne la gestation pour le compte d'autrui, c'est l'article 16-7 du Code civil. Or, le texte ne distingue absolument pas selon le rôle exact de la gestatrice. Il dispose que toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle, formule qui viserait précisément à embrasser toutes les hypothèses de gestation pour autrui au sens large, et probablement d'ailleurs quelques autres. Ce qui est présenté comme la distinction fondamentale en la matière est donc dépourvu d'incidence directe en droit français. Le même régime serait applicable à toutes les hypothèses, du fait même au demeurant de la définition de la maternité en droit français. Pour autant, il y a effectivement matière à distinguer si on entend respecter le sens de la seule occurrence de l'expression « gestation pour le compte d'autrui » dans les textes français, si on entend donc respecter l'acception de l'expression que la loi de 1994 a retenue. Car si le texte n'invite pas à distinguer selon les moyens sollicités, dans la mesure, je l'ai dit, où le rôle exact de la femme qui porte l'enfant importe peu pour sa mise en œuvre, il place au premier plan la finalité de l'opération, pour le compte d'autrui. Il invite donc à distinguer selon les raisons pour lesquelles ou le contexte dans lequel il est fait recours à une femme pour porter un enfant dont elle n'aurait pas vocation à être mère. Un retour au texte conduit à constater que la gestation pour le compte d'autrui saisie à l'article 16-7 du Code civil ne vise qu'une hypothèse particulière, qui est donc la seule spécialement régie par le droit français, c'est la maternité de substitution. Pour rendre compte de la loi française, la gestation pour le compte d'autrui doit donc être distinguée non pas de la maternité pour autrui, parce qu'il ne s'y attache aucune différence de régime, mais d'une autre convention, la commande d'enfant par un géniteur, en l'absence de toute substitution de mère, convention irréductible à ce que la loi désigne comme gestation pour le compte d'autrui. Donc, mon exposé s'articulera autour de deux points. D'abord, un retour sur le sens de, la gestation, de l'expression gestation pour le compte d'autrui à l'article 16.7 du Code civil, et puis la distinction avec la commande d'enfant par un géniteur. Donc, premier temps, le sens de la gestation pour le compte d'autrui dans le Code civil. La gestation pour le compte d'autrui est donc saisie en droit français à l'article 16.7 et elle vise alors une situation particulière, la maternité de substitution. Je vais essayer de l'établir en retraçant la généalogie du texte, un texte qui a été construit au regard d'un phénomène social particulier, l'hypothèse dans laquelle un couple de personnes de sexe différent recourt à une femme tierce pour porter un enfant à la place de la femme du couple en question. Bon, d'abord, revenir sur les faits, je propose juste de s'intéresser aux arrêts les plus emblématiques antérieurs à la loi de 1994. Or, si on s'intéresse à l'arrêt de 1988 rendu par le Conseil d'État et relatif à l'association Les Cigognes, on lit un rappel du statut de cette association. Au terme de l'article 2 de ces statuts, l'association dite Les Cigognes a pour objet la défense des intérêts moraux et matériels des femmes qui se proposent d'aider une femme stérile en portant pour elle sa grossesse. Et le Conseil d'État souligne que l'association requérante a ainsi pour objet de favoriser le développement et de permettre la réalisation de pratiques selon lesquelles une femme accepte de concevoir un enfant par insémination artificielle en vue de céder dès la naissance l'enfant qu'elle aura ainsi conçu, porté et mis au monde à une autre femme ou à un couple. Et de manière générale, le contentieux significatif des années 80 et du début des années 90 illustre l'unicité du phénomène social qu'il s'agit de régir. Il s'agit toujours d'hypothèses de couple ayant recours à une femme pour porter un enfant qui sera juridiquement rattaché aux deux membres du couple en question, et en particulier à celle qu'on ne désigne pas encore comme mère d'intention. Et lorsqu'à son tour, la Cour de cassation est appelée à se prononcer sur le statut juridique des associations qui favorisent ces pratiques, la Cour de cassation, dans son arrêt de 89, à propos de l'association Alma Mater, en rappelle l'objet. L'association Alma Mater a pour objet de faciliter la solution des problèmes qui se posent aux couples dont la femme est stérile, désireux d'accueillir un enfant à leur foyer et aux mères porteuses volontaires, etc., etc. On sait que l'arrêt d'assemblée plénière de la Cour de cassation du 31 mai 1991 concernait également une hypothèse de ce type, et on pourrait multiplier les exemples. Le phénomène qu'ont donc à connaître les prétoires avant la loi de 1994 est donc une affaire de femmes. De femmes qui portent un enfant pour qu'une autre femme puisse devenir mère. Or, la littérature qui entoure ces débats juridiques et judiciaires intègre totalement cette dimension genrée du phénomène. Le sujet appelle régulièrement les références bibliques à Sarah et Agar ou à Rachel et Bila. Et pour sa part, le chapitre de L'enfant de l'esclave, qui est un ouvrage très important de François Théré à la fin des années 80, le chapitre de L'enfant de l'esclave consacré aux maternités pour autrui s'ouvre par une référence à l'entraide entre femmes. Et l'auteur écrit un peu plus loin que les raisons qui inspirent la maternité pour autrui peuvent illustrer une solidarité entre les femmes, répondant à une loi de nature. Et si la coopération entre femmes n'est pas toujours mise en avant dans les écrits des juristes, la figure du couple de personnes de sexe différent recourant à une femme demeure la seule qui soit pensée. Et du reste, la prédominance de cette figure se reflète encore aujourd'hui dans les ouvrages à l'heure de définir ou de décrire le phénomène prohibé par le droit français. Les exemples sont très nombreux de présentations de la gestation pour le compte d'autrui comme un dispositif qui a pour objet de conférer un enfant à un couple. Pour le dire plus simplement, dans les faits comme dans la littérature juridique antérieure à la loi de 1994, autrui pour qui l'enfant est porté par une femme est une autre femme, en principe en couple avec un homme. Et la réponse du droit a été construite en réponse, en référence à cette seule situation. Logiquement, en effet, eu égard à la figure à partir de laquelle le droit est pensé au début des années 90, le dispositif juridique instauré va avoir pour principal objet d'empêcher une femme, une mère d'intention, de prendre la place d'une autre femme, la gestatrice, dans le rapport de filiation. Ainsi seulement peut s'expliquer le choix législatif opéré en 1994 à l'article 16.7 du Code civil, celui de la nullité de la convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui, et dans une moindre mesure, le choix négatif de l'absence de pénalisation de la gestation pour autrui en elle-même et pour elle-même. Ce faisant, la loi qui ne consacre ni l'un ni l'autre des principes d'indisponibilité du corps humain et d'indisponibilité de l'état des personnes que la Cour de cassation avait convoqué pour fonder sa décision d'assemblée plénière du 31 mai 1991, fait clairement prévaloir la logique du second, la logique de l'indisponibilité de l'État sur la logique du premier, la logique de l'indisponibilité du corps humain. La nullité de la Convention a pour unique objet et pour seul effet d'empêcher ce qui est conçu comme une manipulation conventionnelle de la filiation et plus précisément de la maternité. Et d'ailleurs, on voit bien cette filiation entre le dispositif et le principe d'indisponibilité de l'état des personnes, parce que celui-ci continue à être sollicité dans les décisions de la Cour de cassation, alors que depuis 1994, il n'y a plus aucune référence à l'indisponibilité du corps humain dans la jurisprudence de la Cour de cassation. Et donc, le dispositif qui est mis en place a un objet très spécifique. Il s'agit de protéger la filiation maternelle d'un enfant face à la concurrence d'une autre filiation maternelle. Il s'agit d'empêcher la substitution d'une mère à une autre. Le dispositif est donc conçu comme une réponse à une pratique spécifique et, en réalité, il ne permet pas de saisir un phénomène qui est un phénomène profondément différent. C'est le deuxième temps de l'exposé. Un homme demande à une femme qu'elle porte un enfant dont il serait le géniteur et pour qu'il en soit le seul parent, peut-être en droit et en toute hypothèse au quotidien. Ce phénomène est, dans la littérature juridique, chez les auteurs comme dans la jurisprudence, saisi en termes de gestation pour le compte d'autrui. Pourtant, parce que les phénomènes sociaux sont extrêmement différents, la qualification sollicitée s'avère inadéquate. C'est depuis la fin des années 2000 qu'on voit monter en puissance dans la jurisprudence des hypothèses de recours à des femmes porteuses par des hommes célibataires ou en couple avec un autre homme, en toute hypothèse des hommes qui ne sont pas identifiés dans les décisions comme entretenant une relation avec une femme qui entendrait devenir la mère de l'enfant. Que les situations factuelles soient très différentes de celles qu'on avait eu à connaître dans les années 80-90 est parfaitement perçu par les analystes qui ne font pas exactement le même accueil à ces pratiques qu'aux précédentes. Peut-être avant toute chose parce qu'elles mettent en évidence un besoin de paternité que les hypothèses antérieures laissaient dans l'ombre et qui est souvent plus déroutant pour les observateurs. Surtout, ces pratiques suscitent une plus forte réprobation au point qu'elles sont souvent mobilisées pour dénoncer la gestation pour autrui en général. De fait, les figures bibliques ne peuvent plus être appelées en éléments de comparaison, voire de justification, et il ne saurait être question de penser le phénomène en termes de solidarité entre femmes. Mais la perception de la différence diffuse ne conduit pas à contester la pertinence de la sollicitation de la qualification de gestation pour le compte d'autrui, qualification qui pourtant porte à faux lorsqu'il s'agit de rendre compte de cette pratique nouvelle. En effet, la porteuse porte certes dans l'intérêt du géniteur et en ce sens pour lui. Mais si le fait qu'une femme porte un enfant pour qu'un homme puisse devenir père devait donner lieu à qualification de gestation pour le compte d'autrui, toute grossesse désirée par un géniteur qui se destinerait à être le père de l'enfant constituerait une telle gestation pour autrui. Au demeurant, le texte de l'article 16.7 du Code civil est beaucoup plus précis, qui mentionne non pas gestation pour autrui, mais gestation pour le compte d'autrui, expression qui renvoie en droit civil à la figure de la représentation et partant à l'idée de substitution d'une personne à une autre. Or, s'agissant d'un géniteur demandant à une femme de porter un enfant dont il serait en droit ou en fait le seul parent, il n'est pas alors question de voir des personnes se substituer l'une à l'autre. La femme ne porte pas pour le compte du géniteur, c'est-à-dire à sa place, ou pour qu'il prenne sa place. Elle ne porte pas à sa place, tout simplement parce qu'un homme ne saurait en tant que tel porter un enfant. La porteuse ne fait donc pas quelque chose qu'il devrait faire. Une femme doit toujours porter pour lui, pour qu'il puisse devenir père. Et elle ne porte pas l'enfant pour que l'homme prenne sa place, parce que cet homme entend devenir père, c'est-à-dire occuper la ligne paternelle du schéma de filiation, pas la ligne maternelle. Il n'y a aucune substitution de l'un à l'autre. La qualification de gestation pour autrui est donc en toute rigueur non mobilisable pour saisir le phénomène de la commande d'enfant par un géniteur. Et pour s'en convaincre, il suffit que l'on essaye d'appliquer l'article 16.7 dans une telle hypothèse. Et on constate alors l'inefficacité totale du dispositif prévu à l'article 16.7, parce que le commanditaire ne prétend pas à la place de mère, donc de gestatrice, la convention ne porte pas atteinte à l'indisponibilité de l'état des personnes, et donc la nullité de la convention qui conduit à faire retour à l'application des règles impératives du droit de la filiation ne saurait avoir d'incidence sur la paternité. Exclusivement donc penser à partir de et pour protéger la maternité contre une maternité concurrence, pour protéger l'État et pas le corps, le droit spécial, c'est-à-dire l'article 16.7 du Code civil, est inapte à saisir le phénomène de commande d'enfant par un géniteur. Par conséquent, il ne saurait, en toute rigueur, fonder quelque décision que ce soit relative à une telle pratique. Pour le dire autrement, la pratique de la commande d'enfant par un géniteur ne devrait pas pouvoir être dite contraire à la loi, si du moins par la loi, on entend la loi spéciale, c'est l'article 16.7. Je n'ai pas le temps d'essayer de démontrer que, en réalité, même si l'on s'intéresse pas seulement à la loi spéciale, mais aux autres textes, si l'on envisage le ministère public qui chercherait à obtenir une sanction de cet arrangement, on constaterait que finalement il est fort démuni. Il est fort démuni sur le plan de la filiation, on ne voit pas comment le géniteur ne serait pas le père, on ne voit pas comment l'éventuelle femme qui accoucherait sous X, même sur le territoire français, pourrait se voir imposer une maternité. On n'est même pas sûr que, même s'il y avait des transferts économiques, il y ait lieu à restitution pour des raisons diverses de pur droit des contrats. Et même sur le plan pénal, le seul texte qui semblerait véritablement mobilisable, qui est l'article 227-12 du Code pénal, qui vise la provocation à l'abandon d'enfant, ben il n'est pas sûr qu'il puisse véritablement l'être, parce que de très nombreux commentateurs soulignent que le texte vise l'enfant né ou à naître, et que si donc la convention est antérieure à la conception, le texte n'est pas mobilisable. Et pourtant, elle tourne. Pourtant, malgré les textes, et alors que le dispositif juridique, du fait des qualifications disponibles, ne devrait pas permettre de sanctionner la convention de commande d'enfant par un géniteur, la certitude que celle-ci est interdite en droit français est fermement ancrée et produit des effets en droit. Comment expliquer cette forme d'indifférence aux catégories textuelles positives, cette indifférence à la loi, pourtant toujours invoquée pour condamner des pratiques qu'elle ne vise pas ? On ne saurait écarter d'un revers de manche l'hypothèse que la loi, toujours invoquée, soit une autre loi, peut-être avec une majuscule, en somme que le discours dominant soit imprégné d'une épistémologie juste naturaliste, que l'invocation de principe vient efficacement habiller. Je vous remercie. Merci.
Merci Marc pour cette démonstration vraiment très très détaillée et fine. On aura tous l'occasion de vous lire lors des publications. Je suis désolée d'être aussi draconienne, mais comme on a deux tables rondes et comme nous devons quitter les lieux à 6h moins 5, je fais la maîtresse d'école et je m'en excuse par avance. Mais merci encore pour votre exposé. Maintenant, nous allons entendre Irène Thierry, qui est sociologue du droit et directrice de recherche à l'École des hautes études en sciences sociales. Elle a beaucoup travaillé sur les études du genre. Elle est l'avocat d'une approche relationnelle. Et elle est avec Anne-Marie Leroyer, les co-directrices du groupe de travail Filiation, Origine et Parentalité. C'était un groupe de travail mandaté par la ministre à l'époque Dominique Bertinotti et qui a été ensuite publié par les éditions Odile Jacob. Et c'est un rapport qui propose un nouvel encadrement du droit de la famille en France au vu des pratiques de la PMA et du mariage pour tous. Chère Irène, la parole est à vous.
Merci. Les communications que nous avons entendues lors de ce colloque, des précédentes sessions, montrent bien que nous avons, en tant que spécialistes de sciences sociales et de droit, deux tâches à accomplir en permanence par rapport à la question de la gestation pour autrui. Une des tâches consiste à aller au plus près des pratiques et de les observer, on va dire, le plus directement possible, comme au microscope, pour que l'expérience réelle, qui est l'expérience vécue par les parents d'intention, par les gestatrices, par leur entourage, par les professionnels, puisse bénéficier d'une description la plus juste possible. Et puis une autre tâche qui lui est complémentaire consiste au contraire à s'éloigner comme avec un zoom pour essayer de situer la particularité des pratiques de gestation pour autrui dans un contexte. Et je pense que les précédents orateurs ont montré l'importance de cette approche conceptuelle de la gestation pour autrui, qui va consister à la repositionner à la fois dans un contexte, on va dire, socio-économique, qui permet, selon les différents pays, d'appréhender les questions du marché du travail, des inégalités, de la pauvreté, de la situation des femmes, etc. Et dans un contexte, on pourrait dire, socio-juridique, normatif, sur la façon dont les normes, les règles, les représentations, les valeurs ordonnent ce qui est permis, ce qui est interdit. Alors moi-même, comme sociologue du droit, c'est cette approche contextuelle en sociologie que j'essaye de pratiquer en essayant de comprendre la façon dont la gestation pour autrui est pensée en France, ou son interdiction, dans le contexte à la fois des... Qu'est-ce qui se passe ?
Non, c'est très bien.
L'importance de resituer, pour la comprendre, l'interdiction de la gestation pour autrui en France dans le contexte à la fois de l'évolution des nouvelles technologies de reproduction, des questions du droit bioéthique et des questions des transformations du droit de la famille et de la parenté. Quelques éléments très rapides pour situer la spécificité française par rapport à d'autres pays. Je vais être très rapide, ça a été dit. C'est depuis les lois bioéthiques de 1994 que la gestation pour autrui est interdite en France. Ce qui me paraît important, c'est de dire deux mots sur la particularité de ces lois bioéthiques qui n'est pas forcément aisée à comprendre d'un point de vue étranger. Deux caractéristiques seulement de ces lois bioéthiques françaises qui ont été votées en 1994 et qui sont régulièrement réformées. Elles l'ont été déjà en 2004, en 2011, etc. D'abord, ce sont des lois extrêmement contraignantes qui n'ont aucun équivalent de ce point de vue, au point qu'elles renversent un principe fondamental du droit démocratique, je dirais. Dans le droit, en général, ça me paraît être une règle assez fondamentale que de dire que tout ce qui n'est pas expressément interdit est permis. Tout ce qui n'est pas interdit est permis. Eh bien, dans les lois bioéthiques, c'est l'inverse. Tout ce qui n'est pas expressément permis est interdit. Alors, ça a des conséquences de toutes sortes sur la recherche. ça évidemment, ça bloque beaucoup le développement de la recherche scientifique, ça bloque le développement des pratiques médicales. Ainsi, il a fallu attendre, par exemple, très longtemps, entre le moment où il était avéré que de nouvelles techniques de congélation des ovocytes étaient disponibles et leur autorisation, autant de temps perdu pour les patientes, pour les médecins, etc. Donc très contraignante, d'une part, première caractéristique, et d'autre part, des lois dans lesquelles il n'est jamais simplement question d'enjeux, disons, technologiques ou médicaux. Il est toujours aussi question de questions non médicales et en particulier de questions de famille, de filiation et de parenté. Alors, je ne vais pas développer tous les points que j'avais prévu de développer, mais j'insiste simplement sur le fait que, comme l'a dit le professeur Fulchiron dans son intervention, dans un pays comme la France, on s'attendrait à ce que, finalement, par rapport aux problèmes que nous savons que pose la gestation pour autrui dans le monde, se développe une voie, on pourrait dire réglementariste, telle qu'il en a parlé, consistant à dire, au fond, chaque pays est souverain sur le fait d'autoriser, de ne pas autoriser, de réglementer, de ne pas réglementer la gestation pour autrui sur son sol. Ça appartient aux souverainetés nationales. En revanche, ce que nous savons du marché international, si on peut dire, de la gestation pour autrui, de la gravité des atteintes qui peuvent être portées aux droits et à la vie même des femmes et des enfants, et aux droits des parents d'intention, devrait nous amener à élaborer, ça a été dit plusieurs fois, rapidement, des outils efficaces de régulation internationale et de répression de ce qu'on appelle les dérives, bon, en tout cas de toutes les formes, disons, de trafic de ventre qui peuvent exister dans le monde. Cette voie, qui, cela a été dit, est déjà envisagée par la Convention de la Haye, en France est dénoncée, elle a du mal à prospérer parce qu'elle est dénoncée de façon très violente par deux courants qui ont en commun d'être défavorables à la voie réglementariste parce qu'ils la voient comme une concession qui serait faite sur des valeurs fondamentales. Ce sont deux courants abolitionnistes, un courant, on va dire, plutôt situé à droite, partisans des valeurs traditionnelles, et un courant, au contraire, plutôt situé à gauche, féministe, qui ont en commun de demander une abolition universelle de la gestation pour autrui. Donc, une voie abolitionniste qui, en France, l'emporte très nettement dans le débat public sur la voie réglementariste qu'on aurait attendue comme plus conforme, on va dire, à la tradition française. Donc, cette situation... Et sur ce que l'opinion pense, je n'ai pas le temps de développer, mais on a des raisons de penser qu'il y a un écart entre l'opinion, qu'on la pense plutôt hostile à toute idée de réglementation d'une GPA en France, ou qu'on la pense plutôt favorable. Il y a des sondages dans les deux sens. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un écart entre cette opinion hésitante et la force, voire l'hégémonie du discours abolitionniste dans le débat public. Donc, Alors j'ai voulu faire. Vous voyez, c'est bien. Des diapositives en anglais, j'ai oublié de passer. C'était pour aider. Je ne suis pas faite pour ça, moi. Donc ce que je voudrais, c'est essayer d'expliquer pourquoi cette approche abolitionniste a réussi à acquérir un tel poids dans la réflexion et dans le débat social et politique français. C'est, en tant que sociologue du droit, sociologue des transformations législatives, c'est une véritable question pour moi. Et l'hypothèse que je vais défendre, alors en anglais, voilà, l'hypothèse que je vais essayer de défendre en deux mots, c'est que on ne peut pas comprendre les attitudes à l'égard de la gestation pour autrui sans voir qu'elles sont liées et qu'elles révèlent certains traits fondamentaux, évidents et pourtant toujours méconnus, du modèle bioéthique français en général. Et donc, la GPA agit comme une sorte de révélateur de traits plus généraux de notre culture juridique et bioéthique française. Je prête simplement trois points. Premier point, ce qui me paraît important, Quand on évoque la gestation pour autrui, on évoque évidemment la place, le rôle, les droits, les risques de la personne qui donne de sa capacité procréatrice pour permettre à d'autres d'avoir un enfant. Ce que j'appelle un donneur ou une donneuse d'engendrement. La particularité du modèle bioéthique français, c'est qu'il organise des dons, donc le fait que des personnes donnent de leur capacité procréatrice pour permettre à d'autres d'avoir des enfants, il organise des dons, mais en même temps, il ne reconnaît pas, il masque, on pourrait dire, il dissimule juridiquement ce rôle, de cette conception à plusieurs, on va dire, de l'enfant. Et au bout du compte, l'enfant est supposé être né du couple d'intention, avoir été procréé par le couple d'intention, et le droit efface absolument toute intervention du donneur comme s'il n'avait jamais été là. Donc, comment un droit bioéthique qui a tendance à évacuer le don, à l'effacer, à l'anonymiser, peut-il penser les dons féminins ? Donc, ce droit a été pensé pour des dons masculins, finalement, 5 minutes de votre temps, et puis vous disparaissez. Les dons féminins qui impliquent la femme, la personne de la femme dans son corps, que ce soit les dons d'ovocytes, a fortiori les dons de gestation, avec tous les risques pendant 9 mois, puis ceux de l'accouchement. Comment est-ce qu'un pays qui ne veut pas penser le don, qui ne fait pas de place à cette action humaine de donner pour que d'autres deviennent parents, pourrait-il penser les dons de gestation ? C'est un premier problème que je veux soulever. Alors, un deuxième trait du droit bioéthique français qui me paraît important, c'est que ce droit ne reconnaît pas un fait qui est issu de la fécondation in vitro, qui est la possibilité de division en deux de la maternité physiologique. Pendant des siècles et des siècles et des siècles, il était évident que la femme qui accouchait d'un enfant était celle qui avait conçu cet enfant. On n'imaginait pas qu'il soit même concevable un jour qu'il y ait cette division possible entre concevoir un embryon et accoucher d'un enfant. Cette possibilité est devenue réelle à partir de la fécondation in vitro et a posé la question de dire, finalement, on peut donner naissance à un enfant à partir d'une partie simplement, d'une seule des deux composantes, on va dire, de la maternité physiologique. Le choix de la France a été, finalement, non pas de reconnaître la maternité génétique, concevoir un embryon, et la maternité gestationnelle, le porter en accoucher, mais a décidé qu'une seule des deux composantes était la vraie, une seule était reconnue, c'est la maternité gestationnelle. C'est donc la gestation qui fait la mère. Et de là, une disqualification très importante que je détaillerai dans la contribution écrite, des femmes qui peuvent concevoir un embryon, mais qui ne peuvent pas le porter, et qui subissent une véritable stigmatisation de leur demande d'une aide pour lutter contre leur stérilité. Troisième élément important, c'est le fait que le droit bioéthique français entérine, comme s'il allait de soi, un héritage très ancien, et j'introduis ici la dimension du genre, qui a toujours séparé, disons, l'opposition entre une maternité par le corps, la femme et celle qui accouche, et une paternité par la volonté, le père et celui que les noces désignent. Je n'ai pas le temps de développer, mais tout un débat pourrait avoir lieu sur la place de la volonté dans la façon d'endosser un statut de mère, comme la place d'ailleurs du corps dans le fait d'endosser un statut de père. Mais on constate le poids, en tout cas, de cette asymétrie de genre qui considère en quelque sorte que non seulement la mère est celle qui accouche, mais que cet accouchement produirait une sorte, pas tout naturellement, une sorte de naturalisation du processus de constitution du lien de parenté. À partir de là, je vais aller directement à la conclusion, qui consiste à dire, donc, j'ai à peine pu évoquer ces traits quand même importants du modèle bioéthique français, le déni de l'existence d'engendrement faisant appel à des donneurs et donc d'enfants qui naissent de la coopération entre un couple d'intentions et des personnes qui donnent leur capacité procréatrice pour que l'enfant naisse. Donc, pas de discussion sur les dons, pas de discussion sur la division de la maternité en deux, une seule est la vraie, pas de discussion sur les asymétries de genre, le corps pour les unes, la volonté pour les autres. La conclusion, c'est que ce qui nous a été présenté tout au long de ce colloque, comme la question majeure, qui est celle des relations, qui peuvent se tresser, ou pas d'ailleurs, hein, entre parents d'intention et gestatrices, et leur famille, par la médiation des médecins, cette question qui devrait être au centre, qui est au centre d'ailleurs des descriptions que nous avons entendues, que ça soit d'un point de vue négatif pour valoriser la qualité de ces relations, que ça soit d'un point de vue positif ou négatif pour déplorer cette absence, la violence quelquefois justement de cette absence de relation ou de cette emprise sur autrui, cette question qui est au centre est impensable en droit français. Et je reviens sur un point important qui nous ramène à l'article 16 du Code civil qui a été déjà évoqué, cet article 16 du respect du corps humain, il prohibe, en effet, il considère que la convention de gestation est nulle, mais il indique également qu'il serait contraire au respect de la personne, au respect de son corps, que la possibilité pour les donneurs de connaître les receveurs d'un don ou pour les receveurs de connaître les donneurs. Donc nous avons un droit bioéthique qui a resitué les dons d'engendrement à travers les dons de gamètes dans les dons d'éléments du corps humain, en considérant que le plus haut de la bioéthique, c'est que personne ne connaisse personne. Donc ces relations sont en fait interdites dans le droit français. Alors ça serait plus complexe parce qu'en fait dans les donneurs d'organes il y a des exceptions, mais il est quand même indiqué, hein, aucune information, et je termine, permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulgué. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. Voilà, donc tout ça pour dire que les questions soulevées par la GPA vont bien au-delà de la question même de la gestation pour autrui, de ses risques. Elles posent des questions fondamentales sur le poids de l'héritage qui est le nôtre, que nous devons apercevoir pour que les questions implicites et non posées puissent devenir des questions en débat. Merci.
Alors, merci Irène pour cette présentation qui montre bien l'importance du regard du sociologue sur le droit. Je vais maintenant présenter Laurence Brunet qui est juriste, chercheuse associée au Centre de recherche droit, sciences et techniques à Paris 1. Je voudrais aussi souligner que Laurence a coordonné une étude commissionnée par le Parlement européen sur la GPA dans l'Union européenne. Et elle participe aussi de façon très active au Centre d'éthique clinique à l'hôpital Cochin. Donc elle est à la fois une juriste, mais aussi elle travaille sur le terrain sur des questions éthiques de tout genre. Laurence.
Merci. Bon, je note l'heure, hein, 13. Hein, je commence oui. À 13.
Hein, non, mais t'en fais pas. Hein,
je stresse à fond. Merci d'abord de m'avoir convié à participer parce que j'ai vraiment passé une journée et demie déjà formidable et j'ai beaucoup appris, même si c'est un sujet sur lequel je travaille depuis longtemps, comme vous l'avez compris. Alors, j'ai une commande très spéciale. Hein, il s'agit pour moi de vous expliquer les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme sur cette question. Mais je vais devoir faire le maillon entre ce qu'a dit Marc pour vous faire comprendre pourquoi cet arrêt est si important. On va rester un peu dans le droit français, même si on va prendre le prisme du droit européen. Marc vous a expliqué que la Cour, les sanctions qui existaient en France, à la fois les sanctions, enfin les, la prohibition, la réprobation légale et puis les sanctions qu'avait apportées la Cour de cassation, ça n'a pas servi à grand-chose au sens où les pratiques se sont délocalisées et finalement la Cour de cassation française a été amenée à de nouveau statuer sur ces questions-là et en quelque sorte à aggraver sa sévérité puisque les questions qui se sont posées à partir du moment où la gestation pour autrui n'avait plus lieu en France, mais avait lieu aux États-Unis ou dans d'autres pays du monde, c'était de savoir comment on allait faire pour retranscrire les actes de naissance qui avaient été délivrés à l'étranger. Cette transcription n'est pas obligatoire, hein, c'est bien précisé dans le droit français, mais elle aide quand même énormément à aider la vie quotidienne. Elle contribue à faciliter la vie quotidienne française qui est éminemment administrative. Donc la Cour de cassation a refusé en 2013 et 2014, je ne rentre pas dans les détails, de transcrire ces actes de naissance. Et elle a aussi refusé que tout mode d'établissement permette de rattacher l'enfant même à son père biologique. Et donc c'est ce contexte de solution de droit français extrêmement rigoureux qui avait en quelque sorte repoussé toute possibilité pour l'enfant d'avoir un statut certain et qui laissait donc dans une espèce de flou la question de la nationalité de l'enfant, de l'autorité parentale, de la question de la succession, donc tout ce qui est attrait à la reconnaissance de la filiation. Donc tout ce statut incertain, ce flou juridique qui a conduit certains plaideurs à se plaindre devant la Cour européenne des droits de l'homme et donc à cette Cour à sanctionner le droit français. Donc je vais vous parler aujourd'hui de ces arrêts parce qu'ils sont très importants. La Cour européenne des droits de l'homme a une autorité non seulement sur la France, mais sur 47 des pays qui composent le Conseil de l'Europe. Et donc cette décision est en quelque sorte, fait autorité sur l'ensemble de ces pays. Et comme cette décision est éminemment difficile à comprendre, eh bien c'est pour ça sans doute qu'on m'a demandé aujourd'hui de venir vous en parler. Alors cette décision, je vais trop vite, d'accord. Ces deux décisions ont été rendues en juin 2014 dans les affaires Menson et Labassé. Ces décisions ont été rendues à l'unanimité et plusieurs enseignements doivent être retirés de cette décision, de ces décisions. La première, et Irène l'a souligné tout à l'heure, c'est que la Cour reconnaît que chaque pays a le droit de, sur son territoire, d'interdire le recours à la gestation pour autrui. Donc elle dit, la Cour insiste bien sur le fait que les parents qui ont en quelque sorte contourné le droit français ne peuvent pas se plaindre ensuite des tracasseries administratives auxquelles ils vont être confrontés. Mais en revanche, elle fait une distinction entre la vie des parents et la vie des enfants. Et elle dit que la vie des enfants n'a pas à être affectée par leur mode de conception. Et donc, elle considère que l'État français n'a pas le droit de discriminer les enfants nés par gestation pour autrui et de porter atteinte à leur vie privée. Alors, elle va insister sur l'idée que le refus de cette transcription porte atteinte à ce qu'elle appelle l'identité des enfants au sein de la société française. Et elle considère que les conséquences juridiques de cette non-reconnaissance, je cite la Cour, affectent significativement le droit au respect de la vie privée qui implique que chacun puisse établir la substance de son identité, y compris sa filiation. Donc, elle insiste vraiment sur la manière dont l'intérêt de l'enfant a été méconnu. Et puis, dans un avant-dernier paragraphe, elle dit ceci. La Cour européenne insiste, souligne que cette préoccupation, l'analyse qu'elle a menée, prend un relief particulier lorsque, comme en l'espèce, l'un des parents d'intention est également géniteur de l'enfant, que même en ce cas, alors que la filiation biologique est un élément important de l'identité, l'État, même si la filiation biologique est un élément important, ça ne suffit pas, et de toute façon, l'État est allé au-delà de ce que lui permettait sa marge d'appréciation. Alors, voilà, c'est ce paragraphe qui a posé des tas de difficultés. Alors, tout le monde a convenu, en France et ailleurs, que, clairement, les décisions du 26 juin 2014 s'imposaient à la France et lui faisaient obligation de mettre fin à la contrariété de ses décisions, de son ordre juridique interne, avec les droits de l'homme. Mais ce paragraphe-là a posé des tas de difficultés et la doctrine s'est quand même, a majoritairement considéré que l'interprétation était une lecture biologique. Or, il me semble que ce n'est pas si évident, puisque cette locution, relief particulier, il faut quand même qu'on se demande si elle doit être entendue comme une condition sine qua non, nécessaire, qui déclenche la condamnation de la France, ou bien si elle est simplement comprise comme une circonstance supplémentaire qui aggrave la violation par la France du droit au respect de la vie privée, mais qui n'est pas indispensable pour que cette violation soit constituée. Autrement dit, est-ce que la Cour ne condamne le droit français qu'en raison du refus de reconnaître la filiation paternelle fondée sur le biologique, ou à l'inverse, est-ce que la Cour européenne veut dire que c'est le refus de la reconnaissance de la paternité biologique est une circonstance qui rend l'atteinte encore plus flagrante, mais que même sans fondement biologique, le lien de filiation à l'égard de ceux qui se sont engagés dans la gestation pour autrui doit être reconnu, et est-ce que donc elle impose la reconnaissance de la double filiation? Alors vous l'avez vu hier, le défenseur des droits a considéré que c'est la lecture biologique qui s'imposait, c'est-à-dire que la Cour européenne n'aurait condamné la France que parce qu'elle refusait l'établissement de la filiation biologique, génétique. Et moi, il me semble que ce n'est pas du tout aussi évident. Alors pourquoi? Parce que quand on regarde, je l'ai mis en anglais, je le laisserai après pour le reste, pour que vous puissiez le lire plus lentement, mais quand on regarde comment la Cour européenne raisonne, en fait... Oui. Ouais. Et là, je suis passée à celle d'après. Hein. Donc, c'est bon. Non, non, c'est bon. Je veux ça. Donc, lorsqu'elle condamne formellement la France, elle le fait dans le paragraphe 101. Et au paragraphe 101, elle ne vise pas simplement la filiation biologique, elle revient, comme vous le voyez, à l'intérêt de l'enfant. Elle a dit, bien sûr, qu'il y avait un relief particulier lorsqu'il y avait un lien de filiation biologique, mais quand elle prononce la condamnation, lorsqu'elle dit que le droit a été méconnu, elle dit, et aussi, il faut tenir compte du poids de l'intérêt de l'enfant. Autrement dit, l'argument biologique n'est pas le seul qu'il faut prendre en considération. Si on continue, ça c'est en anglais, je le remettrai après, si on remonte encore, quand on regarde le paragraphe 99 en détail, on se rend compte aussi qu'elle vise les parents d'intention. Tout au long de son raisonnement, la Cour européenne a bien dit qu'elle s'intéresse aux conséquences de la non-reconnaissance de la filiation à l'égard de l'enfant et de ses parents d'intention. Et si on remonte encore au paragraphe 98, elle a pris la peine de faire tout un raisonnement pour dire que aussi bien le fait que l'enfant n'ait pas de vocation successorale à l'égard de sa mère comme à l'égard de son père était une atteinte à l'identité de l'enfant. Donc moi, je ne comprends pas vraiment comment la doctrine française, dans laquelle je ne m'inclus pas, a fait pour retenir une appréciation si biologisante. Il me semble que tout le raisonnement de la Cour européenne, c'est justement de dire que c'est une appréciation globale de la filiation maternelle et paternelle qu'il faut porter son attention. Et il me semble que même si dans d'autres décisions, la Cour européenne a accordé un poids important à la filiation biologique, il me semble que là, justement, elle a pris soin de parler toujours au pluriel des parents d'intention et qu'elle a bien englobé dans son raisonnement le père et la mère d'intention. Alors, il me semble, je vais le laisser en anglais, je vais revenir sur la traduction en anglais pendant que je continue à discuter de ces arrêts pour que les non-juristes et les non-français puissent lire le texte plus tranquillement. Il me semble aussi que... il me reste combien de temps ?
Il te reste 6 minutes.
D'accord. Il me semble aussi que cette interprétation insisterait sur une reconnaissance globale de la filiation est parfaitement conforme avec... Enfin, qu'il faut, justement, pour avoir des éléments, il faut replacer ces décisions, Manson et Labassé, dans le reste de la jurisprudence de la Cour européenne. Or, si on regarde le reste de la jurisprudence européenne, et en particulier deux arrêts, l'arrêt Wagner de 2007 et l'arrêt Negré-Pontis Tianisis contre Grèce de 2011, il me semble que justement ce que la Cour européenne nous a toujours incité à faire, c'est d'essayer d'appliquer ce que les spécialistes de droit international privé appellent la méthode de la reconnaissance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un statut a été valablement créé à l'étranger, la Cour considère que ce statut valablement créé par une autorité compétente et régulière à l'étranger doit prévaloir. Or, justement, dans les arrêts Menson et Labassé, les arrêts de mai 2014, elle cite plusieurs fois cet arrêt Wagner. En se référant à l'intérêt de l'enfant, c'est aussi une façon de faire référence à cet arrêt Wagner, qui était un des premiers arrêts qui avait souligné l'importance de, en quelque sorte, reconnaître la situation établie à l'étranger de manière globale pour être conforme à l'intérêt de l'enfant. Et puis, voilà, il me semble que cette insistance sur la cristallisation de la situation à l'étranger de manière régulière, c'est quelque chose qui incite la Cour européenne toujours à admettre cette espèce de prolongation et de stabilité de la situation créée à l'étranger lorsqu'il va y avoir déplacement et que la personne va passer dans un autre pays. Je voudrais aussi, mais sans y insister, dire un mot de la décision que la Cour européenne a rendue dans une autre affaire de gestation pour autrui qui s'appelle Paradiso et Campanelli contre Italie. En 2015, où la question de la filiation n'était pas posée, c'était la question traitée de la question de savoir si l'enfant devait être retiré ou pas à ses parents d'intention, parce qu'on s'était aperçu au moment où les parents italiens étaient rentrés après avoir fait une gestation pour autrui en Italie, que l'enfant n'avait pas de lien biologique avec les parents. Bon, donc la question de la filiation n'était pas posée. Mais quand même, ce que nous dit la Cour européenne, c'est que les parents d'intention doivent être considérés comme ayant une vie familiale qui doit être protégée. Hein. Donc les parents d'intention peuvent être protégés au titre du droit au respect de la vie familiale. Et puis, dernier élément qui me paraît très important pour montrer que la manière dont la France a reçu les choses est quand même peut être contestée. Je ne suis pas sûre que mon interprétation soit la bonne, mais je ne suis pas sûre que l'interprétation restrictive biologisante soit meilleure. Parce que si on compare comment les autres pays ont reçu cet arrêt, comment ils l'ont compris, eh bien, je trouve intéressant de regarder ce qu'a fait le droit allemand. Alors, je sais que Annika, comme elle vous l'a dit hier, a spécifiquement rajouté une diapo pour parler de cette décision. Je veux parler de la décision de la Cour de cassation allemande du 10 décembre 2014, où un couple d'homosexuels était allé dans un pays étranger, était revenu avec un acte de naissance établissant la filiation à l'égard des deux parents d'intention, au terme d'un jugement qui avait été rendu dans ce pays étranger. Et la Cour de cassation, je ne sais pas si c'est exactement le mot Cour de cassation, enfin le Bundesgerichtshof, donc allemand, considère que, eh bien, il faut transcrire entièrement cet acte de naissance. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré l'interdiction peut-être encore plus forte en Allemagne qu'en France de la gestation pour autrui, les magistrats allemands considèrent que la gestation pour autrui ne peut pas être appréhendée de la même manière lorsqu'elle est considérée de manière abstraite et lorsqu'il s'agit de statuer sur un cas dans lequel l'enfant est déjà là. Et la cour de cassation allemande se réfère au moins trois fois dans sa décision à la décision européenne de la Cour européenne des droits de l'homme, Menson et Labassé, et elle insiste sur le fait que pour sécuriser l'enfant et pour qu'en quelque sorte les parents soient directement responsables de l'enfant, ce qu'ils ont voulu, il faut absolument transcrire directement le nom des deux parents. Passer par l'adoption serait prendre le risque que finalement l'un des parents refuse d'adopter l'enfant et donc l'intérêt de l'enfant, la sécurité de sa filiation impose une transcription immédiate. Voilà. Donc, malgré d'autres pays, l'Italie en particulier, ou la Suisse, ont interprété l'arrêt de la Cour européenne de manière différente. Donc, je ne dis pas quelle est la meilleure solution, mais je dis au moins que le débat se pose. Et puis, je voudrais, il doit me rester 30 secondes maintenant, oui, finir aussi, vous dire un mot des derniers arrêts qui ont été rendus par la Cour européenne des droits de l'homme et qui sanctionnent la France, les arrêts Foulon et Bouvet du 21 juillet 2016, Et je ne rentre pas dans les détails, mais il y avait encore des difficultés en droit français, malgré la condamnation française, dans le cas des Menson et Labassé en particulier, pour obtenir enfin cette transcription, en raison de l'obstacle que constitue ce qu'on appelle l'autorité de la chose jugée. Je voulais vous dire que la France avait été de nouveau condamnée pour ces obstacles qui restaient, et que finalement, une loi a été votée et validée hier soir, par le Conseil constitutionnel, loi dans laquelle il y a des dispositifs qui permettent aujourd'hui, lorsqu'un couple en France a obtenu une condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme dans une matière concernant l'identité, la famille, ce qu'on appelle l'état des personnes, de pouvoir faire un recours en révision pour pouvoir obtenir la modification des actes de l'état civil. Et je crois que ça, quand même, c'est une avancée très concrète. Même si ça concerne peu de monde, c'est déjà quand même une reconnaissance aussi importante de ces arrêts de la Cour européenne. Voilà.
Merci, Laurence. Pour, encore une fois, la nécessité de regarder le droit français from the outside, que ce soit à partir d'une autre discipline ou à partir du droit supranational ou international. Je passe enfin, last but not least, la parole à Anne-Marie Leroyer, qui est professeure de droit privé à Paris 1 et spécialiste du droit de la famille. Elle a, avec Irène Thierry, diriger le groupe de travail que j'ai mentionné tout à l'heure. Elle a beaucoup de publications à citer, donc je ne vais pas en citer. Il y en a tellement que vous trouverez ça dans sa biographie. Beaucoup, beaucoup d'ouvrages et d'articles importants. Anne-Marie, c'est à vous.
Merci beaucoup, Jennifer. Vous l'avez compris, donc la question que nous allons nous poser ensemble maintenant pendant ces quelques minutes est la suivante. Puisque la gestation pour autrui est interdite en France, et que des ressortissants français vont à l'étranger recourir à la gestation pour autrui et rentrent sur les territoires français, ou tentent parfois de rentrer sur les territoires français avec l'enfant ou les enfants ainsi nés, qu'advient-il de la filiation de ces enfants conçus et nés à l'étranger au regard du droit français ? Et ces deux questions, l'interdiction et la filiation, sont évidemment deux questions que les juristes français regardent de manière concomitante, ce qui conduit évidemment à des solutions relativement bancales. Ce qu'il faut d'abord, et ce que je vais essayer d'abord de vous présenter, c'est l'état du droit. Très simplement et de manière particulièrement simplifiée, parce que parfois les questions sont un petit peu complexes. Et à la suite de cet état du droit, je voudrais en livrer avec vous une appréciation critique, et même extrêmement critique. Donc du point de vue de l'état du droit. Du point de vue de l'état du droit, que se passe-t-il lorsqu'on est à l'étranger ? Eh bien la plupart du temps, l'enfant dispose d'un acte de naissance étranger. Sur cet acte de naissance étranger, il peut y avoir mention du nom de son père d'intention, de sa mère d'intention ou de son père d'intention et de la mère porteuse. Ça dépend des états et des situations. Il est possible aussi que les parents d'intention aient un jugement d'adoption. De retour sur le territoire français ou alors à l'étranger auprès du consulat, eh bien, il y a deux manières de vivre avec cet acte de naissance ou ce jugement étranger. La première, et je ne parlerai là que des cas les plus fréquents, ce qui fait que mon exposé est évidemment un peu imprécis sur ces points, mais le papier sera plus complet. La première situation la plus fréquente qu'on demande, c'est celle que mentionnait Laurence, c'est-à-dire de demander pour l'acte de naissance sa transcription, c'est-à-dire sa réécriture, sur les actes d'état civil français. L'avantage de cela, c'est qu'on était en présence d'un acte de naissance étranger et on se retrouve avec un acte de naissance français, avec la possibilité d'opposer cet acte de naissance, finalement, qui a pleine force probante auprès de toute personne qui demande à établir l'identité de l'enfant, avec évidemment toutes les conséquences que ça emporte, et notamment la possibilité de demander un livret de famille. Et c'est la seule possibilité, il faut avoir un acte de naissance français pour obtenir un livret de famille, et le livret de famille a une importance en France dans les démarches qu'on peut avoir auprès des administrations françaises. Donc ce n'est pas une petite chose que de demander cette transcription sur le plan des conséquences qu'elle emporte dans la vie familiale des intéressés. Évidemment, comme Laurence le soulignait, la transcription n'est pas obligatoire. Pour que l'acte de naissance étranger ait une force probante sur le territoire national. Si l'acte n'est pas transcrit, eh bien, deux finalement réglementations différentes s'y appliquent. Si nous sommes en présence d'un acte qui a été émis par un État non membre de l'Union européenne, il doit être apostillé. Si on est en présence d'un acte qui a été émis par un pays membre de l'Union européenne, je pense à la Grèce, et c'est le seul cas finalement qui pourrait advenir aujourd'hui pour des ressortissants français, par exemple, qui se rendraient en Grèce, eh bien, à ce moment-là, il y a un nouveau règlement européen dont on ne sait pas s'il s'appliquerait à cette situation, qui date de juillet dernier, qui tend à admettre la libre circulation de ces actes authentiques sur, finalement, au sein des États membres qui pourraient en faciliter la circulation. Donc on voit que ce n'est pas parce que l'acte de naissance n'est pas transcrit, réécrit en français sur les registres d'état civil français, que pour autant, il n'a pas de force probante. Mais on se rend compte aussi que c'est beaucoup plus compliqué, finalement, de ne pas avoir, pour les parents et l'enfant, un acte de naissance français. J'explique cela pour vous faire comprendre l'importance qu'a pris la transcription au regard des pratiques et de la jurisprudence en France. À la suite des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, dont vous a parlé Laurence, évidemment, la façon dont on a interprété en France ces décisions est restrictive. C'est-à-dire qu'on a considéré qu'il fallait reconnaître la filiation de ces enfants dès lors qu'elle était conforme à la réalité biologique, donc en particulier pour le père. Et aucune solution très nette ne s'est dégagée pour la mère. De sorte que, quel que soit l'axe que l'on prenne, on se trouve en présence d'une situation qui est tout à fait insatisfaisante. S'agissant donc de cette question de la transcription plus précisément, qu'est-ce que l'on fait ? La Cour de cassation, en juillet 2015 dernier, a considéré, dans une situation où nous avions un enfant qui était conçu par gestation pour autrui en Russie, avec un acte de naissance qui mentionnait le nom du père biologique et de la mère porteuse russe, que cet acte de naissance devait être transcrit sur les registres d'état civil français. Pour quelle raison ? Parce que cet acte de naissance correspondait finalement aux exigences de sa reconnaissance en France aux fins de transcription, c'est-à-dire qu'il était régulier, non falsifié et qu'il correspondait à la réalité entendue comme étant la réalité biologique. De sorte que dans cette ligne, toutes les fois où nous sommes en présence d'un acte de naissance, où nous avons le nom du père biologique et de la mère porteuse, l'acte est transcrit, sans qu'il y ait une opposition, donc du gardien de la loi chez nous, c'est-à-dire du procureur de la République. À l'inverse, lorsque nous avons des actes de naissance où il est fait mention du nom du père biologique, père d'intention aussi, et de la mère d'intention, la solution que l'on voit se dessiner dans les différentes juridictions, et plus particulièrement devant la Cour d'appel de Rennes, seule compétente pour juger de ces questions, eh bien, est celle d'une transcription partielle. C'est-à-dire que l'on va admettre qu'à l'état civil français figure le nom du père, puisque ça correspond à la réalité, mais pas le nom de la mère. Et donc on est dans cette situation où il y a une reconnaissance partielle. Avant de commenter, ce sera l'objet de ma deuxième partie, je voudrais vous faire connaître la manière dont on peut aussi finalement établir en droit français la filiation des enfants ainsi nés. Parce qu'il y a une deuxième solution. Ce serait de dire, eh bien, ne nous tournons pas vers la transcription, c'est-à-dire vers la reconnaissance de la force probante de cet acte d'état civil, mais essayons, deuxième solution, d'utiliser les modes d'établissement de la filiation que le droit français nous offre. Et donc, là, les modes d'établissement de la filiation en droit français ne sont pas les mêmes pour le père et pour la mère. En ce qui concerne le père, eh bien, les mêmes questions se sont posées depuis ce revirement de jurisprudence de 2015 qu'auparavant. Le père peut-il reconnaître l'enfant dès lors que, qu'il a eu recours à une convention de gestation pour autrui à l'étranger. Alors que la jurisprudence ne l'admettait pas auparavant, depuis les arrêts de la Cour européenne et leur virement en 2015, la réponse est affirmative. Le père biologique peut reconnaître l'enfant. Et donc, on a là une possibilité nouvelle, sans passer par la transcription, d'établir la filiation, une filiation paternelle qui sera reconnue. La toute petite question qu'on pouvait se poser, qui est sous-jacente, c'est puisque la Cour européenne nous dit que finalement, il est très important, et Laurence l'a souligné, de considérer la filiation comme un élément de l'identité lorsque, et en particulier, ça prend un relève particulier lorsque c'est la filiation biologique, je le dis trois fois pour être sûr que ce soit bien compris, ben, est-ce qu'on va exiger que le père, pour reconnaître l'enfant, fasse la preuve génétique de sa paternité ? Là, la question s'est posée. Or, la question ne se pose pas dans d'autres circonstances. C'est-à-dire qu'un père qui n'est pas marié, qui veut reconnaître un enfant, n'a pas à produire de tests génétiques de paternité préalablement à sa reconnaissance. Donc on a eu une toute petite crainte qu'ici les juges exigent tout à coup, parce qu'on était en présence d'un processus de GPA, pour la reconnaissance, la production d'un test de paternité. Ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire que pour l'instant, il faudrait voir si ça se poursuit. Dans les décisions qu'on a eues, il y a quand même une décision du juge du fond qui est un peu ambiguë sur cette question, mais dans celle de la Cour de cassation de 2015, on n'exige pas que préalablement à la reconnaissance, le père produise ce test de paternité. En ce qui concerne la mère, maintenant, la situation est beaucoup plus compliquée. Quel que soit, sa situation, qu'elle soit la mère génétique ou qu'elle ne soit pas la mère génétique, eh bien, lorsqu'elle voudrait faire établir sa maternité au regard du droit français, parmi tous les modes de preuve, aucun ne serait vraiment à sa disposition, ni la reconnaissance, ni vraiment la possession d'État, sauf à changer complètement de mentalité. Lui resterait donc, je préciserai dans vos questions si vous le souhaitez, l'adoption. Mais, pour l'heure, nous n'avons pas encore, depuis la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, de décision qui admettrait l'adoption par la mère d'intention de l'enfant ainsi conçu. À l'inverse, je dirais même que nous avons une curieuse décision sur laquelle nous allons nous arrêter quelques instants, parce qu'elle mérite qu'on s'y arrête, parce qu'elle reprend un peu des questions qui concernent tous nos débats depuis un jour et demi. Vous allez être surpris. Il s'agit d'une décision de cour d'appel. Donc certes, son importance doit être tout à fait mesurée. Enfin, modérée, pardon. Décision de cour d'appel de Dijon du 24 mars 2016. Je ne vous ai pas abreuvé de date à dessein, mais celle-là est suffisamment originale comme décision pour qu'on en retienne la date. Dans cette décision, il s'agissait donc pour le mari du père de demander l'adoption simple d'un enfant conçu par gestation pour autrui à l'étranger, dans le cadre donc de la nouvelle procédure d'adoption ouverte depuis 2013 aux parents de même sexe mariés. Et ce, donc le mari du père, se voit refuser l'adoption simple de l'enfant. Pour quelle raison ? Eh bien, il y a de multiples raisons qui sont invoquées. Mais il y en a une qui a retenu mon attention. Parce que dans un processus d'adoption, il faut que la mère de naissance, dit-on, donne son consentement à l'adoption. Or, il nous est expliqué dans cette décision que elle ne peut pas donner valablement son consentement, cette mère qui a été mère porteuse. Pour quelle raison ? Parce qu'elle s'est engagée dans le processus de gestation pour autrui dès l'origine en consentant à ne pas être mère. Et donc, c'est parce qu'elle n'est pas la mère qu'ensuite, pour l'adoption, elle ne peut pas consentir à l'adoption. Ce qui fait que, je suis contente de voir que ça vous fait sourire parce que ça nous a fait aussi bondir, je suppose que cette argumentation ne tiendra pas devant la Cour de cassation. Moi, j'ose l'espérer. Mais tout de même, c'est intéressant parce que vous voyez que pour l'instant, on est bloqué sur la question de l'adoption et on pourrait même s'interroger même sur l'opportunité d'une adoption dans ces cas-là. Mais l'ensemble de ces éléments nous font réfléchir de trois manières sur nos questions. D'abord, on voit très bien que si les juges ne veulent pas admettre la transcription de l'acte de naissance en ce qui concerne la mère ou l'adoption pour la mère, c'est parce qu'on se dit que si on admet l'établissement de la filiation paternelle et maternelle, alors il n'y a plus de sanctions. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée qui gouverne un peu nos solutions. Il n'y a plus de sanctions. Il en faudrait en trouver d'autres, donc. Et donc, on fait peser les conséquences, finalement, du comportement, quelle que soit l'opinion qu'on peut avoir, du parent qui transgresse l'interdit français sur l'enfant. Ça n'est pas possible. Ensuite, deuxième observation. Ces décisions et l'ensemble, finalement, de notre droit positif mettent en avant d'une manière inquiétante la prévalence de, finalement, d'un fondement génétique de la filiation. Puisqu'on ne reconnaît l'établissement de la filiation que si on est en présence de ce qu'on appelle la réalité, qui est en réalité la réalité biologique. Ça, c'est la deuxième observation. Et troisième observation qui est dans la ligne, c'est ce droit français crée une différence absolument critiquable et scandaleuse entre la situation de la mère et la situation du père. Et donc, on a une question de genre qui s'introduit finalement dans notre droit et qui crée une inégalité qui est incompréhensible parce que les solutions sont les mêmes si la mère d'intention est aussi la mère génétique de l'enfant. Donc c'est génétique pour le père, ce n'est pas génétique pour la mère. C'est possible pour le père, ce n'est pas possible pour la mère. Et tout ceci dans un mouvement qui est en quelque sorte un mouvement de sanction et de prohibition de la gestation pour autrui qui vient jeter son ombre sur l'établissement de la filiation. Il y a encore beaucoup de travail à faire en France. Je vous remercie.